15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Pendant une heure avec le docteur Jimmy Mohamed, notre médecin européen, nous tentons de vous éclairer sur les sujets de santé qui vous préoccupent et justement, comme tous les jours, il est à mes côtés dans ce studio. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire, aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à un sujet dont on parle pas assez souvent finalement. Focus aujourd'hui sur la santé de nos pieds. Les cabinets des pédicures podologues ont rouvert. Ces professionnels vont certes pouvoir à nouveau nous soigner les pieds quand c'est nécessaire, mais comment aussi en prendre soin à la maison de nos petits petons souvent négligés? Pour en parler, nous recevrons Jamel Bouhabib. Il est podologue et président de l'Union française de la santé du pied. Ensuite, dans notre chronique, les maux du quotidien, nous nous intéresserons à un autre organe qu'on connaît finalement très mal, lui aussi, le pancréas. Mis à part le cancer qui le touche parfois et qui fait très peur, finalement, savez-vous à quoi sert précisément ce dernier? Quel est son rôle dans notre organisme? Nous ferons le point. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, elle va nous parler de séparation amoureuse et de ce qu'il faut faire ou non pour se remettre plus vite d'une relation perdue.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première question, c'est celle de Capucine.
Bonjour Jimmy, bonjour Mélanie. J'ai une question à propos du chou kale. On en entend parler depuis quelques temps. J'aimerais en connaître les vertus, savoir si c'est bon pour notre santé, pour notre corps et quels sont les nutriments que ça apporte pour l'organisme. Merci beaucoup, bonne émission.
Merci beaucoup Capucine. Alors Jimmy, le chou kale, je crois que c'est votre légume préféré, ça tombe bien, je crois que vous en mangez presque tous les jours. Alors comme vous ne savez pas vraiment pourquoi...
Je ne sais même pas ce que c'est Mélanie, je ne vais pas vous mentir, le chou kale, je connais que le chou mais
j'avais
déjà...
J'avais préparé ma petite blague mais je savais que vous saviez même pas ce que c'était. Alors du coup, pour en savoir plus, parce que c'est à la mode et cet aliment a donc plein de vertus, on a préféré interroger une spécialiste, on écoute la naturopathe Angèle Ferremag.
Le chou kale, qu'on appelle aussi le chou calé frisé, c'est un chou en fait qu'on utilisait énormément dans le temps dans nos campagnes en France, qu'on appelait le chou plume ou le chou à vache ou le chou à lapin. Et en fait, c'est complètement passé de mode parce que c'était un truc très très rustique. Et c'est redevenu, mais vraiment force de Californie, vraiment à la mode il y a une quinzaine d'années, parce qu'en fait, il est plein de vertus. Il contient beaucoup de fibres, donc c'est bon pour ralentir la digestion du glucose notamment, pour le transit aussi. Il est aussi plein de calcium, très peu calorique, il contient beaucoup de vitamine C, beaucoup plus que l'orange. Il contient de la vitamine K qui entre dans la composition de la coagulation du sang. Il est très riche en fer, donc anti-anémique. Donc vraiment, c'est un super chou. Il est super anti-coup de fatigue. Et il est assez facile à cuisiner, en fait.
Vous voyez, Jimmy, il y a tout ce qu'il vous faut là-dedans.
Très bien.
Hein, vous allez en acheter.
Ça a l'air pas bon, mais bon, ok.
C'est du chou, mais...
En tout cas, il y a des
vertus. Franchement, c'est délicieux. Moi, je le fais en chips, c'est très bon. Alors, on va passer à la deuxième question d'auditeur, puisqu'on n'est pas dans Top Chef, on a dit. Question d'auditeur, cette fois, c'est une question pour vous, Jimmy. C'est la question de Caroline, qui a 41 ans.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Mon médecin a conseillé de faire vacciner ma fille de 11 ans contre le papillomavirus. Je voulais savoir si c'était vraiment nécessaire et important parce que je ne l'ai jamais fait et pour autant je n'ai jamais eu de soucis. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous conseillez? Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.
Alors Jimmy, ce vaccin donc HPV, d'abord, il est conseillé pour qui? C'est quoi les recommandations aujourd'hui?
Alors déjà, il faut expliquer, le vaccin, le HPV, c'est un virus. Et on s'est rendu compte que ce virus était responsable notamment de cancer, du col de l'utérus, mais pas que.
C'est même des virus, hein, je crois, il y en a
plusieurs.
C'est un
groupe de virus et certains sont à haut risque de développer des lésions cancéreuses. Et donc, ce vaccin permettrait d'éviter des cancers du col. Et donc, pour l'instant, il était recommandé chez les jeunes filles de 11 à 14 ans avec un rattrapage possible de 15 à 19 ans. Alors, pourquoi les vacciner très tôt? Déjà pour deux raisons. La première, c'est qu'on sait que le vaccin est nécessaire puisque 8 femmes sur 10 vont rencontrer ce virus au cours de sa vie. Donc, elle va être potentiellement à risque de développer la maladie. Et puis, dans 60% des cas, elles vont rencontrer le virus dans le début de leur activité sexuelle parce que la contamination se fait essentiellement par voie sexuelle. Et ce vaccin, il est efficace si on vaccine tous les enfants avant leur
rencontre sexuelle. Exactement.
Parce qu'une fois qu'on a ce virus, eh ben le vaccin ne marche plus. Donc c'est vraiment de la prévention. Et donc pour l'instant, c'était les petites filles qui étaient touchées.
C'est pour ça qu'on ne le fait pas aux femmes plus mûres, on va dire. Combien de doses il faut? 2-3 injections?
Il y a 3 vaccins disponibles. Ouais. On recommande le dernier puisque finalement, il y a 9 HPV
plus de souches
qui sont visées. Il se fait entre 2 et 3 injections. Ça dépend du vaccin et de l'âge à partir duquel on vous vaccine.
Et donc la nouveauté, c'est que désormais, c'est aussi recommandé pour les petits garçons.
Exactement, c'est la Haute Autorité de Santé qui fait cette préconisation, puisque c'est fait, mais ailleurs dans le monde, aux États-Unis, le font, au Royaume-Uni. Et donc désormais, c'est aussi recommandé pour les garçons de 11 à 14
ans. Même âge que les filles, hein, pareil.
Exactement, puisqu'on sait qu'environ, il y a un peu moins de 2000 cancers chaque année qui surviennent chez l'homme, liés à ce vaccin, liés à ce virus d'HPV, avec des cancers de la marge anale, du pénis,
de la gorge même.
De la gorge, exactement. Mmh. Et c'est un peu plus dans les populations qui ont des hommes, qui ont des relations sexuelles avec les hommes, même si, encore une fois, l'immense cible, ça reste les femmes, puisque c'est 3000 cancers chaque année du col de l'utérus et c'est 1000 décès. Et donc, finalement, c'est une vaccination gagnant-gagnant.
En revanche, cette auditrice, elle dit, puisqu'elle est plus âgée, elle a 40 ans, elle dit « Moi, je ne l'ai jamais fait, j'ai toujours fait des frottis, tout va bien. » Ce vaccin, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus de frottis, qu'on ne fait plus de tests HPV.
Ça permet de diminuer le risque de lésions précancéreuses. En revanche, le suivi est nécessaire de 25 à 65 ans, tous les 3 ans. La première année, on fait un frottis et puis on en refait un autre l'année d'après pour être sûr que vous ayez deux frottis consécutifs qui soient normaux. Et évidemment, ça ne remplace pas, c'est une prévention. Et puis, quand vous allez voir la gynécologue ou la sage-femme, elle examine les seins. On dépiste d'autres choses, donc oui, ça ne remplace pas le frottis, heureusement.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, vous avez des questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite. Dans un instant, nous allons accueillir notre invité, le podologue Jamel Bouhabib, avec qui nous allons faire un point sur les grands oubliés de notre santé, nos pieds, comment les soigner quand ils souffrent de gros ou de petits bobos, et surtout, comment en prendre soin au quotidien, c'est le plus important qu'on ne le pense. On va tout vous expliquer, à tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1. Sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, Jamel Bouhabib. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédicure-podologue et président de l'Union française de la santé du pied. Alors, on va quand même parler un tout petit peu de contexte, du contexte dans lequel on vit en ce moment, puisqu'on vous avait reçu pendant le confinement, je crois, en ligne à l'époque. On était nous chez nous et vous chez vous. Là, on a la chance de vous avoir en plateau. Et juste rappeler, les cabinets de pédicure-podologue, vous avez dû tous fermer, clairement. Donc là, aujourd'hui, l'activité a repris normalement, ça y est, ou pas du tout?
Alors, l'activité a repris, c'est vrai, après une longue période d'incertitude, de 2 mois donc, de fermeture. Hein, on a fermé nos cabinets du jour au lendemain en donnant nos lots de masques, de gants, de gel hydroalcoolique à toutes les professions qui étaient dites en première ligne. Et nos patients se sont retrouvés démunis, d'ailleurs nous aussi, du jour au lendemain. Le 11 mai, ça a été la reprise, donc avec des gestes barrières, des précautions multiples au sein de l'activité en cabinet. C'est charlotte, masque, lunettes,
vous en êtes
gants,
là encore, hein,
blouse,
aujourd'hui, oui.
Sur blouse, protection de chaussures, délimitation des zones, plus de revues, plus de magazines dans les salles d'attente, etc.
Et des rendez-vous un peu espacés aussi pour que les clients, les patients ne se croisent pas trop.
Voilà,
hein, c'est
donc
ça,
des rendez-vous espacés, des distances à maintenir entre les chaises dans les salles d'attente, la réduction du nombre de chaises dans les salles d'attente. Non, ça va très très loin.
C'est incroyable ce hiatus entre ce que vous pratiquez comme mesure et ce qu'on peut voir après en population générale dans les magasins. Et donc on se rend compte qu'il y a deux mondes.
C'est
celui
ça.
Qui a peut-être conscience du
c'est
risque
ça.
Que les patients peuvent encourir et puis l'insouciance qu'on peut avoir. Donc malgré tout, vous continuez de faire attention.
Alors on continue de faire attention. C'est des recommandations qui émanent de l'ordre, donc on les a tous appliqués. Donc c'est un coût pour les cabinets, c'est
bien
un
sûr.
Coût en termes d'argent, bien entendu, mais c'est aussi chronophage, puisqu'entre chaque patient, eh ben, il faut aussi prévoir le temps pour nettoyer les cabinets,
oui, en plus derrière,
désinfecter les zones, les plans horizontaux, les plans de travail, tous les appareils, donc un temps très important.
Alors dans votre patientèle, il y a tout un tas de patients différents. Il y a notamment une patientèle qui est âgée par exemple et qui est diabétique. Ça, ce sont des gens qui ont vraiment besoin de manière souvent, ça dépend le stade du diabète et tout ça, mais de manière urgente et très importante pour éviter les complications. Ces patients-là, donc, ils sont revenus après le 11 mai. Ça va, vous arrivez à les prendre en charge comme il faut parce que j'imagine qu'il y a la queue au portillon et puis qu'il y a peut-être des situations qui sont vraiment très très compliquées.
Voilà, alors je voudrais rappeler qu'il y a une prise en charge pour les patients de type donc 2, de grade 2, de grade 3. C'est-à-dire que c'est des patients qui, théoriquement, nous voyons dans les cabinets de podologie tous les 3 mois et les 4 mois. 2 mois de confinement, ça a été catastrophique. Il n'y a pas eu de suivi. Dans la précipitation et dans l'urgence, donc la profession s'est mobilisée. On a créé ce qu'on appelle les structures d'urgence podologique, donc dans tous les départements, pour prendre en charge, bien entendu, les patients les plus à risque.
Et forcément, il y a eu des oubliés, il y a eu des gens qui ont dû arriver avec des plaies au niveau des
mais
pieds.
Mais il y a eu énormément d'oubliés, surtout dans les urgences podologiques. Donc, les podologues prenaient, bien entendu, donc, tout ce qui était plaie inflammatoire, plaie infectée. Et donc, ça a laissé sur le carreau, entre guillemets, beaucoup d'autres patients.
Jimmy.
Donc ça, c'est le côté pathologique. Mais est-ce que le fait, finalement, d'être confiné, d'avoir fait du télétravail, de ne pas avoir mis ses chaussures, d'être resté pieds nus, est-ce que ça a été finalement pas mal pour nos pieds? Est-ce que ça a été positif?
Ben, je dirais qu'il y a deux aspects. Il y a le premier aspect positif, c'est que les gens ne se sont pas chaussés, donc il n'y a pas eu toutes les contraintes mécaniques liées au frottement.
J'avoue, j'étais contente de laisser mes talons au placard.
Voilà, donc notamment les femmes. Et puis après, il y a eu cet aspect confinement qui fait que on ne va pas se chausser, on ne va pas se raser, forcément, nous les hommes. Les femmes ne se chaussent plus, elles ne s'entretiennent plus, nous ne nous entretenons plus les pieds.
Oh là là, il me décrit une population dans un état, là. Voilà.
Voilà. J'ai quand même lavé les pieds pour le
voilà, un petit peu quand même. Hein. Voilà. Mais je parle de tout ce qui va être geste comme l'hydratation des pieds. Je passe de la crème tous les jours, je coupe mes ongles régulièrement, ça a été moins fait. On se chaussait moins bien, donc on était souvent en pantoufles, en claquettes ou en tongs.
Sauf les sportifs du dimanche, ceux qui s'y sont mis, là, les sportifs du confinement, les nouveaux
coureurs. Et qui attendent peut-être le prochain confinement pour se remettre à courir.
Voilà, exactement.
Ceux-là, ils ont pu faire des bêtises avec leurs pieds justement mal chaussés.
Alors ceux-là ont fait des bêtises parce que c'est des gens qui, dans la globalité, n'étaient pas forcément entraînés. C'est ce qu'on appelle, donc ce sont des gens qui se sont découverts sportifs pendant le confinement. Et donc là, on les a récupérés également donc, après le confinement parce que des tendinites, des douleurs au niveau des pieds. Et puis, bien entendu, donc, des conseils de chaussage et la réalisation d'orthèses plantaires. Donc là, effectivement, beaucoup de problèmes musculaires.
Hein. Ça risquait pas de vous arriver, Jimmy, au moins.
Non, l'avantage. Moi, je me suis mis au sport après le confinement.
C'est ça.
J'ai compris.
Pas faire comme tout le monde, jamais.
Exactement.
À vous, Jimmy.
Comment est-ce que vous pourrez qualifier la santé des pieds des Français? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'on prend soin de nos pieds? Alors, je ne parle pas des patients diabétiques ou autres, mais d'une façon générale.
Alors, globalement, si vous voulez, l'Union française pour la santé du pied, nous, ça fait 18 ans qu'on est sur le créneau, on met en place des campagnes de prévention sans l'aide d'aucune institution, avec nos propres moyens, ce qui est proprement scandaleux. On met en place une journée nationale de prévention, donc au mois de juin, chaque année. Alors, bien entendu, vous l'avez compris, cette année, la journée n'a pas eu lieu.
On vous invite quand même, vous voyez.
Voilà, c'est très gentil. Mais on se rend compte que globalement, la santé du pied, c'est le parent pauvre de la santé. On ne s'en occupe pas assez, on n'en parle pas assez.
Il y a des pays où c'est mieux qu'en France, où on fait plus attention à ses pieds, ou c'est toujours le parent pauvre?
Alors moi, j'ai l'occasion d'aller régulièrement en Espagne. Je trouve que les cabinets de podologie là-bas n'ont rien à voir avec les cabinets de podologie qu'on a en France. Ce sont des professionnels qui ont le droit à l'anesthésie, qui ont le droit à la petite chirurgie. Dans les pays anglo-saxons, la podologie est très avancée. Les professionnels exercent leur métier pleinement. Nous, on est encore à batailler pour des gestes de prévention. Je vous donne un exemple très simple. Il y a une expérimentation qui a été menée dans les pays de la Loire sur un certain nombre de personnes âgées, notamment dans les EHPAD. Et on s'est rendu compte, ce sont des chiffres qui existent, on s'est rendu compte que l'intervention du pédicure-podologue, les conseils du pédicure-podologue, les notions de chaussage du pédicure-podologue avaient fait baisser le risque de chute chez les sujets âgés de plus de 17%.
Ah oui, quand même,
voilà.
Effectivement.
La prévention chez les diabétiques, je vous rappelle juste un chiffre, il y a une dizaine d'années en France, pays industrialisé, médicalisé à outrance, on était quand même à 15-16 000 amputations. Depuis 10 ans, donc, l'Union française pour la santé du pied préconise des campagnes de prévention. Les podologues mettent en place, donc, avec les patients gradés 2 et gradés 3, donc, des gestes qui permettent aux patients diabétiques d'éviter les amputations. On est passé donc de 15 000 à 9 000 amputations en 10 ans.
Encore du
mais
travail,
9 000 amputations, c'est quand même un chiffre extrêmement haut qu'on pourrait encore diminuer.
Avec de la prévention.
S'il y avait une véritable politique de prévention, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on prend en charge une partie des diabétiques déjà avec un risque avéré. Les patients qu'on appelle grade 0 et grade 1 ne sont absolument pas pris en charge. C'est ça le problème.
Jamel Bouhabib, on fait que commencer cet entretien. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons continuer à parler de la santé de vos pieds, comment les garder en pleine forme avec les beaux jours qui arrivent. On va leur faire prendre un petit peu l'air, alors comment se débarrasser de la corne ou éviter les ongles incarnés? On vous dit tout dans quelques minutes, restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, comme tous les jours. Et puis notre invité, c'est vous, Jamel Bouhabib. Vous êtes pédicure-podologue et président de l'Union française de la santé du pied. Alors, on va passer aux soins qu'on peut apporter à nos pieds, en règle générale. Et on va peut-être parler d'abord de nos ongles. Avant de parler des ongles, je vais faire encore un petit retour en arrière. Mais je sais que sur nos pieds, on n'imagine pas à quel point on en a besoin. Vous avez, je crois, un chiffre que vous avez calculé. On fait le tour de la Terre, juste pour comprendre à quel point on les sollicite, ces pieds. On fait le tour de la Terre plusieurs fois, je crois, avec, vous aviez un chiffre que vous nous
avez
donné.
Alors, sauf si on est amputé du pied, hein, ce qu'on ne souhaite pas, bien entendu, si on entretient ses pieds régulièrement, on va pouvoir faire 2,5 fois le tour de notre planète avec nos pieds. Ce qui veut dire, je vais ajouter cette précision, qu'on dispose du mode de transport le plus économique, le plus écologique et le plus performant et qui nous coûte quasiment rien. Ouais. Voilà, donc il y a vraiment un intérêt tout particulier à prendre soin de la santé de ses pieds.
Alors justement, donc on va passer à nos ongles, puisque sur nos pieds, il y a ce problème-là, parce que les ongles, ils engendrent beaucoup de blessures, notamment quand on les entretient mal. D'abord, bon, on sait qu'il faut les couper, hein, mais il y en a qui les coupent un peu tard. C'est quoi le bon rythme, on va dire, pour couper ces ongles déjà? Et puis ensuite, on va parler de la technique, comment on les coupe.
Alors, je voudrais rappeler le rôle de l'ongle. Globalement, c'est un petit peu comme la carrosserie d'une voiture. Hein. Donc, un ongle, ça sert à protéger l'orteil. Voilà. Après, au niveau de la fréquence, ça va dépendre des uns et des autres. Globalement, on va dire qu'à peu près toutes les 3 semaines, et une fois par toutes les 3 semaines ou tous les mois, voilà, il faut couper les ongles.
Moi, je les coupe trop, alors, hein, parce que je coupe plus souvent que ça. Mais il y a des gens qui ont les ongles qui coupent.
Il y a des ongles qui coupent beaucoup plus vite, hein, en fonction des mains ou en fonction des pieds. Donc, globalement, voilà, la fréquence, c'est à peu près toutes les 3 semaines.
Ouais,
tous les 3 semaines, c'est le bon rythme.
Hein. Et la bonne technique, alors, pour les couper, c'est quoi?
Alors, théoriquement, c'est la pince à ongles. Voilà. Alors,
c'est
par contre, c'est un petit peu compliqué.
Ça, ce que vous appelez
non, c'est la vraie pince à ongles qu'on achète en pharmacie.
Ah, d'accord.
Ça, c'est le bon outil. Après, ça peut parfois présenter des difficultés quand on s'en sert soi-même. Alors, nous, c'est plus facile parce qu'on s'en sert pour le patient. Mmh. Après, la deuxième technique, c'est le ciseau qu'on achète encore une fois en pharmacie, hein, pas celui qu'on achète en hypermarché pour couper ses feuilles doubles. Voilà. Et puis après, il y a la technique au coupe-ongles. L'essentiel, c'est quand même de couper l'ongle le plus droit possible, sans aller dans les angles, dans les angles, et le faire régulièrement.
Jimmy.
Éviter d'aller dans les angles, c'est pour prévenir l'ongle incarné, c'est ça?
Oui, exactement.
Est-ce qu'il y a d'autres techniques pour éviter un ongle incarné? Si jamais ça survient et qu'on commence à avoir mal, qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, le premier conseil que le podologue serait tenté de vous donner, c'est de prendre votre téléphone et d'appeler le podologue. Voilà, lui va traiter ça de manière très efficace. Pour éviter d'avoir un ongle incarné, donc vous l'avez rappelé, il faut vraiment absolument éviter d'aller dans les angles. Alors je le dis et je le rappelle parce que souvent les patients, on leur explique qu'il ne faut pas le faire, mais c'est quelque chose qui titille les individus.
Oh,
et systématiquement,
on
a envie d'aller dans les angles.
Voilà. On a envie.
Je pense que tout le monde voit de quoi on parle.
Donc il ne faut vraiment pas le faire. Et lorsque c'est trop tard, alors soit on désinfecte et puis on met un pansement. Ça peut passer dans les 2-3 jours. Si ça commence à devenir rouge et si on voit une petite flictaine imprégnée de plans avec du pus, là, je crois qu'il faut prendre rendez-vous avec son pédicure-podologue ou son médecin pour traiter rapidement, parce que ça peut prendre très rapidement des proportions importantes, avec notamment donc la présence d'un botryomycome, et ensuite très rapidement, botryomycome.
C'est quoi ça?
C'est un petit granulome inflammatoire qui se gorge de sang, qui est extrêmement sensible, très douloureux, comme une petite fraise, une petite framboise que vous avez sur le bourrelet de l'ongle. Et là, après, très rapidement, si ce n'est pas maîtrisé, c'est la chirurgie.
D'accord, donc pour éviter tout ça, on vient vous voir, on n'essaye pas avec le petit ciseau à ongles, aller chercher le coin qui reste, qui s'enfonce dans la
peau. Non, absolument pas. Sauf si on veut avoir un rendez-vous avec le podologue. Là, c'est le meilleur moyen pour venir nous voir.
D'accord. Alors, on n'est pas tous égaux sur la qualité de nos cheveux, sur la qualité de notre peau, mais sur la qualité de nos ongles aussi. Il y a des gens qui ont des ongles un peu striés, ou en tout cas, en vieillissant, on a de plus en plus ça. C'est génétique, la qualité des ongles? Il y a des gens qui ont des ongles qui se strient, qui se séparent, enfin, pour les pieds aussi, hein.
Oui, alors l'ongle, on l'a rappelé, c'est une carrosserie et les sportifs sont bien placés pour en parler puisque souvent les gens qui font des marathons, des semi-marathons vont consulter
abîmés,
parce qu'ils ont les pieds abîmés et puis souvent ils perdent les ongles par le biais d'hématomes sous un guéo. Voilà. Donc ensuite, il y a la conformité de l'ongle. On peut avoir des ongles en forme, différentes formes, en volute, tulle de Provence, etc.
Il faut savoir que
c'est poétique.
Tous les micro-traumatismes répétés, j'appelle un micro-traumatisme répété qui est dû au fait de l'activité sportive, mais aussi d'un mauvais chaussage. Le mauvais chaussage peut engendrer des micro-traumatismes répétés sur la lame aiguë, va modifier la forme de l'ongle. Et par exemple, une chaussure avec un talon trop haut, beaucoup trop pointu.
Quoi trop haut? Du coup, je demande tous les détails.
Trop haut, chez la femme, c'est au-delà de 4,5 cm, 5 cm. Voilà. Là, on est déjà trop haut.
Ouais. Je crois que je dois avoir 12 aujourd'hui, c'est pas terrible.
Alors, c'est pas très bon pour votre dos, c'est pas très bon pour la cambrure de votre dos, c'est pas bon pour votre bassin, c'est pas bon pour votre genou. Bien entendu, c'est très très mauvais pour le pied. Voilà. Donc, tous ces micro-traumatismes vont modifier, vont altérer la qualité inguale de l'ongle et ça va poser des problèmes.
Jimmy?
Avec le beau temps, on a envie de montrer ses pieds, en tout cas les femmes. Plutôt, parce que moi, les miens, de toute façon, ils sont très moches. Mais du coup, parfois, on met du vernis semi-permanent. Est-ce qu'on peut passer tout l'été avec du vernis sur un ongle sans que ça pose problème?
Alors non, ça pose des problèmes. Donc, on en parlait un petit peu avant. Effectivement, le vernis, on peut en placer comme ça ponctuellement de quelques jours. Mais il vaut mieux de temps en temps donc retirer son vernis et laisser l'ongle
aérer. Sur les pieds, le semi-permanent, ça peut durer un mois. Hein. Voilà. J'ai déjà fait l'expérience, mais alors l'ongle derrière, il morfle. Hein,
voilà, donc l'ongle est confiné, c'est un mot qui revient très à la mode. L'ongle est confiné, absence de lumière, absence d'aération,
il
et
jaunit.
Forcément, il jaunit. Et il devient donc plus friable, et donc c'est souvent la porte d'entrée également à ce qu'on appelle donc des mycoses, ou une altération de l'ongle, un ongle qui va avoir tendance à se décoller.
Donc combien de jours maximum le vernis, on le garde 3-4 jours et ça suffit, c'est ça,
ouais,
ou une semaine?
Allez, soyons ambitieux, une semaine maximum, mais il faut le retirer après. Hein.
Merci Jamel Bouhabi. Bon, on va faire une courte pause et on continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
Son rendez-vous revient dans un instant. Nous allons maintenant passer à la santé et à la beauté aussi de nos pieds en général. En cette période estivale, on veut tous les avoir les plus jolis possibles. Alors comment éviter la corne sous les talons, les durillons? Quels soins apporter à nos pieds au quotidien? On vous détaille tout ça juste après. Alors restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, c'est vous, Jamel Bouhabib. Vous êtes pédicure podologue et présidente de l'Union française de la santé du pied. Alors avec vous aujourd'hui, ben on vient de le dire, on va parler du pied puisque vous êtes présidente de l'Union française de la santé du pied. Comment on en prend soin au quotidien de ces petits petons, je dirais? D'abord, bien sûr, il faut les laver. Mais c'est vrai qu'on se dit, les pieds, parfois, on les oublie un peu en les lavant. Ce que je veux dire, en tout cas, c'est que certains vont se dire, bon, ben, de toute façon, je me lave le haut, le savon coule dessus. Est-ce que vraiment, c'est très important de frotter beaucoup dessus? L'hygiène du pied, c'est quoi?
Alors, ça commence par les principes élémentaires. Donc, effectivement, l'hygiène du pied, bah, c'est la douche ou c'est le bain, ou c'est prendre une petite cuvette avec de l'eau pas trop chaude, surtout quand on est diabétique. Utiliser un bon savon de Marseille, par exemple. Mais c'est surtout le premier geste, c'est bien essuyer le pied. On le fait pas assez.
À la sortie.
Donc, il faut vraiment prendre le temps. Souvent, on prend la douche le matin, on est très, très pressé.
Moi, j'avoue que j'enfile les chaussettes parfois avec les pieds un peu humides encore.
On est encore humide, on est bien confiné dans ses chaussures toute la journée. Ça macère tranquillement. Donc, dégagement de chaleur. Et c'est la porte ouverte aux verrues, aux mycoses, aux champignons, aux problèmes cutanés. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'essuyer
bien
ses pieds
sécher.
Correctement, en insistant sur un endroit très particulier, c'est les espaces interdigitaux.
Ah, oui.
C'est là que vont se développer donc, les prémices des mycoses, des champignons.
J'ai du bol, j'ai pas eu ça. Mais
si
vous les séchez
pas,
bien, vous, vos pieds, Jimmy, vous allez bien dans entre les doigts, etc., entre les orteils?
Non. Je vais pas vous mentir, non,
personne
ça qu'on va très
ça,
vite.
Hein,
on vit
hein.
dans un monde où on est très pressé, on fait tout très vite, on passe du temps sur le téléphone, mais pas assez sur nos pieds.
Bon, si je sèche, c'est grossièrement, et puis alors entre les orteils, je passe pas la serviette, hein, ça c'est
et
sûr.
Et dans les soins quotidiens, est-ce que la râpe ou la pierre ponce, c'est quelque chose qu'on peut utiliser? Moi, dans ma tête, qui dit pierre ponce ou râpe, dit ça va repousser encore plus vite et qu'il faut plutôt laisser. Quel est votre point de vue?
C'est pas faux, parce qu'en fait, c'est une question qu'on a fréquemment en cabinet. Donc nous, on conseille de le faire tous les 10-15 jours, pas plus, parce que plus vous allez venir poncer donc, l'épiderme
plus
au niveau du
durcir.
Talon, plus ça va durcir et plus ça va activer le système de repousse épidermique. Et donc, en fait, on fait qu'augmenter le problème.
Donc tous les jours, c'est pas possible.
Faut pas le faire tous les jours. Donc s'il faut faire tous les jours, c'est bien hydrater la zone du pied, donc notamment les talons. Et puis voilà, accessoirement passer la râpe ou la petite pierre à poncer au niveau des talons tous les 10-15 jours, mais vraiment pas plus. Hydrater, c'est important.
Pourquoi d'ailleurs on a de la corne qui se forme? Est-ce que tout le monde en a ou juste Jimmy Mohamed?
Alors,
c'est gratuit.
J'ai pas encore fait de bilan podologique avec Jimmy.
C'était
là,
une
mais
plaisanterie, bien sûr, il a des pieds parfaits.
Ouf. Ma femme dirait le contraire, mais c'est pas grave. C'est pas le sujet.
Mais globalement, donc effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau du talon, donc, c'est une zone d'appui qui est extrêmement importante. Hein. Donc, on a un os qui s'appelle l'os calcaneum là-dessus. On a donc une grosse partie du poids du corps qui transite par cette zone-là. L'épiderme est plus épais qu'à d'autres endroits du pied. Par contre, c'est la zone d'impact la plus importante à chaque fois que vous marchez.
C'est pour ça, donc.
C'est pour ça. Donc, ça tape, c'est accentué par le claquage avec les chaussures, notamment, on en parlait tout à l'heure, avec les sandales, les tongs, des choses comme ça. Et donc, l'épiderme va réagir en cherchant à être plus épais, justement, pour
il
vous préserver.
Protège,
il se protège,
c'est un
geste. C'est une action protectrice. Et donc, cet épiderme, ces cellules épidermiques viennent s'imbriquer les unes au-dessus des autres, un petit peu comme un millefeuille, pour donner une image. Et on va finir par avoir une zone d'hyperkératose intense qui va finir donc par être très dure,
et
qui va finir par
même.
Être
et oui.
douloureuse, et dans certains cas se fendiller, se transformer, donc on l'appelle en crevasse, voire en rayade. Et chez certains patients, donc les artéritiques et les diabétiques, ou chez certains patients de type obèse, ça a des répercussions catastrophiques.
Jimmy ?
Tout à l'heure, vous avez dit que si jamais on avait des douleurs, un ongle qui commence à être incarné, il fallait vous voir. Mais est-ce qu'il faut attendre d'avoir mal pour aller voir, pour venir chez vous? Est-ce qu'on peut venir en prévention? Et si oui, tous les combien de temps?
Alors, c'est une des revendications de la profession. En tout cas, moi, c'est mon leitmotiv en tant que président de l'Union française pour la santé du pied. C'est mettre en avant la prévention. Et la prévention, c'est montrer, quel que soit son âge, à partir de 5 ans,
ah oui,
montrer une fois par an son pied à un podologue. Comme on montre ses dents, comme on fait
ans,
un bilan au niveau de la yeux.
Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de durillon. Il y a quoi à 5 ans?
Ben, on va donner des conseils de chaussage. C'est là qu'on va déceler les problèmes de pieds plats, de pieds creux, de déformation des orteils. Hein, chez souvent, les enfants ont des déformations au niveau des orteils. On va associer cela donc avec des conseils de chaussage. On va regarder l'axe des membres inférieurs. Est-ce qu'il présente un genu vagum ou un genu varum?
C'est quoi ça?
Alors, c'est des déformations des membres inférieurs. Vous allez avoir les genoux qui se touchent
dedans,
ou au contraire
peu,
qui sont en dehors. Voilà. Et donc, c'est à partir de cet âge-là qu'on va pouvoir donner nos premières recommandations, nos premiers conseils, nos premiers exercices.
Voir des semelles, des orteils.
S'il le faut, des orthèses plantaires, donc des semelles. Bien entendu, lorsqu'on voit un enfant à 2-3 ans, on va déjà l'examiner, donner les premiers conseils, notamment l'acquisition de la marche. Est-ce qu'il est en retard ou pas, les premiers conseils de chaussage. Mais très rarement, on va donner ou demander à ce que l'enfant porte des orthèses plantaires. Vraiment, on va attendre l'âge de 5 ans. Mmh. Et c'est là que les premières mesures doivent être prises. Donc la prévention, c'est pour tout le monde et dès l'âge de 5 ans.
Alors, bien se chausser, c'est très, très important, puisque vous l'avez dit, déjà, il faudrait faire un petit tour chez le podologue dès l'âge de 5 ans pour être sûr qu'on n'a pas de problème particulier et avoir des conseils de chaussage. Mais bon, admettons, pour les gens qui sont plus âgés aujourd'hui, qui ne sont jamais venus vous voir encore, c'est quoi les conseils, on va dire, de base hein, pour le chaussage? Est-ce que, je crois que vous vous dites, il ne faut pas trop de baskets et plutôt du cuir. Pourquoi?
Voilà. La règle générale, c'est jamais le même chaussage. Donc la basket aujourd'hui, même si elle est devenue très technique avec des matériaux qui sont de meilleure qualité, bah, c'est pas forcément très bien pour le pied parce que ça lui permet donc, si vous voulez, un écrasement. L'arche interne n'est pas du tout soutenue et avec les matériaux qui sont utilisés, donc on va favoriser donc tout ce qui va être apparition de mycose, transpiration. Il suffit de voir les pieds de nos adolescents, voire aujourd'hui de nos adultes qui sont
c'est
tous
quoi,
en basket.
C'est quoi la bonne chaussure alors
Pourtant, on est confortable dans une basket. Écoutez-moi, toute la journée, je suis en basket. Ben oui, je travaille SOS Médecin, donc je fais des visites à domicile. Et donc, pour comme beaucoup, on se déplace. Et forcément, dans la basket, je suis plus à l'aise que dans une paire de chaussures. C'est contre-intuitif, en fait.
Oui, alors par contre, on est effectivement plus à l'aise. C'est plus facile pour marcher. Par contre, au niveau de l'épiderme, on est moins bien. Donc, ça va favoriser, donc, ce que je le disais, donc, tout ce qui va être problème de mycose, champignons. Ça favorise dans certains cas également donc l'apparition d'ongles incarnés parce que le pied va transpirer, donc ça favorise bien entendu tous les problèmes de transpiration. Un exemple tout bête, un ongle, on l'a dit tout à l'heure, il peut être épais, mais il peut être aussi très très fin. Quand un pied transpire, et Dieu sait qu'il va transpirer dans une basket pendant 10 heures, il va être beaucoup plus mou. Il suffit que j'ai une petite déformation de l'orteil en hallux valgus. L'hallux valgus va frotter contre l'orteil voisin et c'est la porte ouverte à un ongle incarné. Donc effectivement, on est bien dans des baskets. Moi-même, je suis venu aujourd'hui exceptionnellement en basket.
Non mais là, c'est l'été, ça y est. Et donc mais on va vouloir mettre des sandales, des tongs. Ça, c'est tout à plat. Est-ce que c'est bon pour le pied?
Alors, trop plat, c'est pas bon. Trop,
les femmes adorent
bon.
Les petites ballerines aussi.
Alors les ballerines, c'est bien pour aller au bord de la plage, pour aller au bureau une journée comme ça, mais le lendemain, il faut changer de type de chaussage. La règle, la bonne règle, ce serait de dire... On ne reste jamais en permanence avec le même type de chaussage.
Il faut avoir quoi? Trois paires de chaussures au moins pour varier un petit peu, c'est ça?
Trois, quatre paires de chaussures. On peut porter une paire de baskets, une paire de tongs, une paire de ballerines, une paire de claquettes, une belle paire d'escarpins. Faites-vous plaisir avec un petit talon, voilà.
Vous avez compris, Jimmy, une seule de paire d'escarpins. Pas besoin d'avoir
c'est des espadrilles en ce moment-là, j'aime bien. Là, on est bien dans des espadrilles.
Pourquoi pas, on est bien. Puis le pied respire en plus. Hein. Et le pied respire.
Très bien. On met du déo dans les chaussures, ça sert à quelque chose
quand...
Juste un petit conseil peut-être pour les gens qui ont des petits problèmes d'odeur dans les chaussures.
Alors pour les problèmes d'odeur, il faut essayer donc les moyens les plus simples. Donc déjà, on évite de se laver les pieds avec de l'eau chaude, mais plutôt avec de l'eau froide, bien froide. On s'essuie bien le pied. On évite les matériaux donc à base de synthétique, comme par exemple les baskets. On va plutôt privilégier donc par exemple les espadrilles en été ou les sandales. Et puis surtout, si on a des problèmes de transpiration, on va donc essayer donc tout ce qui va être à base de talc. Je pense notamment à des moyens très simples, le talc de Venise, par exemple. Et surtout, on essaie de changer de chaussures tous les jours. Je ne parle pas des chaussettes, bien entendu.
Bien sûr. Merci beaucoup, Jamel Bouhabib, pour tous vos conseils, pour chouchouter nos pieds donc, qui sont de sortie en cette saison estivale. Merci encore. Dans un instant, notre chronique Les mots du quotidien et nous allons nous intéresser à un organe qu'on connaît finalement très mal, le pancréas. Mis à part le cancer qu'il touche parfois et qui fait très peur finalement, savez-vous à quoi sert ce dernier? Quel est son rôle dans notre organisme? Nous ferons le point. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, focus sur l'un de nos organes très mal connu, le pancréas. Savez-vous précisément à quoi il sert dans notre organisme? Où se trouve-t-il d'ailleurs dans notre ventre? Avez-vous une idée? Eh bien, Benjamin Lévesque a été vous poser toutes ces questions. On écoute son micro-trottoir.
Je crois que c'est une glande qui sécrète une enzyme.
Ça sécrète une certaine substance et qui permet l'équilibre du corps.
C'est un organe qui permet de réguler tout ce qui va être insuline.
Je pense qu'il participe au niveau de la transformation des aliments au niveau intestinal, donc il doit être dans le système digestif.
Proche de l'estomac. Je pense que ça aide pour tout ce qui est autour de ça, autour de la digestion.
Sur le côté droit.
C'est au milieu de l'abdomen, c'est pas loin du foie, je crois.
Alors oui, je pense que c'est vital, parce qu'il y a très peu d'organes qui sont pas vitaux.
Si on a une greffe, j'espère qu'on peut faire des greffes, je sais pas, mais on peut pas se passer de pancréas.
Bon, il est vraiment pas mal ce micro-trottoir. Hein. Les gens, finalement, ont beaucoup plus de connaissances sur cet organe, qui n'est donc pas un organe, puisque c'est une glande, effectivement, on va en parler. Alors, Jimmy, d'abord, c'est quoi le pancréas? Donc, quelle taille à peu près? Il se trouve où à peu près dans le ventre?
Alors, ils l'ont dit, c'est une glande. Et donc, une glande, elle est responsable d'une sécrétion hormonale. Mais le pancréas aussi a un rôle dans la digestion. Il fait vraiment partie de notre système digestif, puisqu'il va sécréter des sucs pancréatiques qui vont être excrétés par la suite. Et en ce qui concerne les mensurations, il fait 15 cm de long sur 4 cm de large et 2 cm d'épaisseur. Il est situé dans la partie supérieure.
C'est gros quand même.
Mais pas si gros que ça. Quand vous regardez votre téléphone, 15 cm, c'est pas très gros pour un organe.
C'est la taille de mon téléphone ?
Mais ouais, ça fait à peu près ça.
Je pensais que c'était plus petit, moi. Je ne sais pas pourquoi.
Bon,
d'accord, admettons. Alors, continuons.
Il est situé dans la partie supérieure de l'abdomen, entre l'intestin grêle et la rate, et il est juste derrière l'estomac. Bon, voilà. Et c'est à cet endroit-là que vous pouvez avoir mal si jamais il souffre.
Ok. Alors, on le situe mieux maintenant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc un tout petit peu plus sa fonction dans notre organisme ? Vous avez dit, il produit des hormones, des sucres, mais ça sert à quoi tout ça finalement ?
Alors, il y a deux fonctions. Une sécrétion d'hormones, une fonction exocrine et endocrine. La fonction exocrine, ça veut dire que le pancréas va excréter des hormones au travers d'un canal, et ce canal permet à ce moment-là de créer des sucs pancréatiques qui vont arriver dans l'estomac pour la digestion. Ça, c'est 10%, c'est 90% des cellules, et puis vous avez 10% qui restent pour la fonction endocrine. Endocrine, ça veut dire que vous allez sécréter des hormones qui vont se déverser directement dans le sang, et le parenchyme est organisé en des îlots.
Alors, le parenchyme,
c'est le tissu du pancréas.
D'accord.
Qui forme des îlots, donc des petites îles, avec deux types de cellules, des cellules de type A et de type B. Les cellules de type A vont sécréter le glucagon. Le glucagon, c'est l'hormone qui va augmenter le taux de sucre. Et les cellules de type B vont sécréter l'insuline,
ça, c'est peu connu,
responsable de la baisse du sucre et donc une fonction vitale dans la vie de tous les jours.
Bon, alors passons à la partie un peu moins rigolote. Il peut être malade, ce pancréas, s'il dysfonctionne. On a compris qu'on pouvait avoir aussi un diabète, puisque ça sert pour cette histoire d'insuline. Est-ce qu'il y a d'autres pathologies autour de cette glande? Je sais qu'on parle de pancréatite. Alors, est-ce que vous nous expliquez rapidement ce que c'est?
Pancréatite, it, c'est l'inflammation. Donc, c'est l'inflammation du pancréas. C'est extrêmement douloureux. Les gens ont des douleurs abdominales terribles situées au niveau de l'estomac. L'estomac, c'est au-dessus du nombril, dans le creux épigastrique. C'est en dessous du sternum.
Ouais, l'estomac, c'est aussi à peu près.
Ouais, pas tant que ça. Des fois, on a des petites surprises. Et donc, à ce moment-là, lorsqu'on a une pancréatite, on a mal. Mais si on fait plein de pancréatites aiguës, on a ce qu'on appelle des pancréatites chroniques. Et la cause principale, c'est l'alcool. En ce qui concerne la pancréatite aiguë, deux causes principales. Un, encore une fois, l'alcool. La prise d'alcool massif peut entraîner cette inflammation et douleur. Et deux, lorsque vous avez un calcul dans les voies biliaires, eh bien, la bile ne peut plus être excrétée. Vous avez terriblement mal et ça peut donner cette pancréatite qui, encore une fois, le maître mot, c'est la douleur. Il faut faire une prise de sang qui permet de confirmer le diagnostic.
Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement, je sais que c'est un peu compliqué, mais on a peu de temps, comment on la traite, cette pancréatite, qu'elle soit aiguë ou chronique,
eh bien,
comme vous l'avez
on
dit.
On a dit que le pancréas participait au système digestif et donc il faut être au repos digestif, donc c'est d'être à jeun. On ne mange plus, on boit quasiment plus, on soulage la douleur, on doit être hospitalisé, on a des examens puisqu'il peut y avoir des complications derrière et il y a un suivi. Donc c'est une maladie qu'il faut prendre très au sérieux puisque finalement on n'a pas de traitement, on ne vous donne pas d'antibiotiques, on ne va pas vous opérer, sauf si vous avez un calcul. Et donc par la suite,
là, on enlève le calcul.
Exactement. Ouais. Et donc la fois d'après, on essaie d'anticiper donc sevrage de l'alcool ou traitement du calcul. Et puis après, il y a des formes un peu plus rares, mais qui nécessitent un avis spécialisé.
Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, comme tous les jours, nous sommes rejoints par Catherine Blanc. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, ravie de vous retrouver.
Également, aujourd'hui Catherine, on a une question de Sabrina, je vous la lis. Mon copain a rompu il y a 3 semaines, c'est toujours très douloureux pour moi, je suis toujours très triste. Est-ce que vous pensez que je dois aller me consoler auprès d'un plan d'un soir? C'est une bonne façon pour oublier. Une question question très précise, hein, là, Catherine. Je ne suis pas sûre que ce soit la solution, mais vous allez nous dire pourquoi d'abord on est 3 semaines. C'est normal d'être encore un peu triste. Enfin, dis pas combien de temps elle était avec cet homme, mais.
Mais quand bien même, ça ne serait pas très long. On peut avoir investi fortement une relation, même de courte durée, et de toute façon, vivre la douleur d'être celle qui est quittée. Parce que ce n'est pas la même chose de quitter quelqu'un et que d'être quitté, parce qu'on ne s'y attend pas. Parce que
on n'a pas choisi.
On ne l'a pas choisi, parce qu'on ne maîtrise pas la situation, donc. Et peut-être parce que. Alors, ou c'est que l'orgueil qui fait la douleur, parce que ça ne veut pas dire que c'était de l'amour, ça peut être simplement de l'orgueil, et on peut le comprendre, narcissiquement, être extrêmement blessé, comme ça peut être évidemment avoir perdu tout l'imaginaire que l'on avait dans la projection de cette relation à venir. Et donc évidemment qu'il faut du temps. Le deuil des relations, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts, parce que l'autre ferme la porte. Derrière la porte, on continue à se raconter mais pourquoi, mais est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre, et on s'invente l'histoire de l'autre sans nous, ou on invente tout ce qu'on n'a pas vécu et qu'on aurait voulu vivre avec l'autre.
Donc il n'y a pas une durée légale, entre guillemets, de dire alors en 3 mois, normalement, c'est réglé, il n'y a pas de règle en fait. Hein.
Non, c'est comme pour le deuil, la mort de quelqu'un, il n'y a pas de règle. Il y a chacun sa capacité à faire avec les souvenirs et la douceur de ses souvenirs ou la souffrance d'avoir ces souvenirs qui n'ont pas trouvé de suite dans la relation.
Mmh. Jimmy.
Mais je ne sais pas, quand on tombe à cheval, la meilleure façon, c'est pas de se remettre en selle.
Ah, vous aussi, vous êtes dans le truc d'un soir.
Non, mais c'est pas ça, je ne sais pas. On tombe en vélo, il faut remonter pour.
Sur selle.
Sur selle, exactement. Est-ce qu'il ne faudrait pas, pour passer le cap, passer à autre chose ?
Bien sûr qu'il faut passer à autre chose, mais je ne suis pas sûre que ce soit de sauter sur quelqu'un, parce que dans la réalité, le but, ce n'est pas d'avoir peur du vide, d'avoir peur d'être face à soi-même, sans relation, et d'avoir le sentiment que la douleur de l'autre qui nous quitte, c'est parce que je ne sais pas faire avec moi-même. Je crois qu'il faut savoir faire d'abord avec soi avant d'aller vers des relations pour créer des relations de qualité. Donc à ce titre, l'histoire d'un soir, pourquoi pas.
L'homme-pansement.
Voilà,
ça n'existe pas. Ça.
Mais non, puis en plus, en général, ça va être l'homme qu'on compare à celui qui manque, parce qu'il me manque terriblement. Celui-là est vraiment décidément trop nul. Je crois que personne n'a à être objet d'une histoire de chagrin personnel. On n'a pas à faire subir ça à qui que ce soit et être méprisant à ce point de l'autre pour simplement chercher tout n'importe quoi sur lequel on saute, juste pour se dire qu'on est libre de sauter sur quelqu'un d'autre. Parce que dans la réalité, l'affaire faite, à moins bien sûr que ce soit une révélation de quelqu'un.
Ça peut faire du bien quand même, non, si on est très malheureux, d'aller s'évader un petit peu avec quelqu'un d'autre, pourquoi pas quand même.
S'évader, mais je trouve que, encore une fois...
Quand on a la souffrance, ça sert à rien, c'est ça que vous voulez dire.
Je trouve que quand on a la souffrance, on y va avec une idée de souffrance, une idée qu'on est abandonné, donc ou on va y aller avec un désir de vengeance, ou on va y aller avec l'idée de toute façon qu'on peut être qu'abandonné et maltraité. Donc de toute façon, il n'y a quand même pas facilement une belle issue à une histoire qui se fait comme cela. Donc je trouve qu'il faut d'abord savoir faire avec le deuil de la relation, savoir faire avec soi, et savoir se remettre effectivement dans une idée belle de soi-même pour pouvoir aller conquérir le monde et donc conquérir un autre, bien sûr. Mais pas pour combler, combler le trou, combler le vide qu'a créé l'autre par son départ.
Donc remonter en selle, c'est moi qui me suis trompée tout à l'heure, Jimmy, à vous.
En tout cas, combler le trou, je trouve que c'est une très belle image. Mais
oui, non, c'est pas très élégant, vous avez raison.
Est-ce qu'il faut une période vraiment réfractaire entre deux relations ? Est-ce qu'on peut enchaîner en quelque sorte, et vous avez dit partir à la reconquête. Donc si vraiment on retombe sur quelqu'un au bout de quelques jours, ça pose pas de problème. En vrai, la seule limite qu'on s'impose, c'est celle dont on a besoin. C'est pas,
de la psycho là, Jimmy, c'est incroyable.
En fin de saison.
Waouh.
Ah non, mais c'est chill, ça, hein. Mais c'est top. même mes lapsus ou mes formulations ne lui échappent pas.
Tout ce que vous dites, vous avez vu, il a l'œil, hein, vraiment. Allez-y.
Non, mais j'adore. Et donc.
Sur la période réfractaire, on peut aussi faire une belle rencontre très peu de temps.
Absolument, absolument. Je crois que il n'y a pas évidemment de règles. Souvent, d'ailleurs, on est embêté par le regard des autres. C'est-à-dire, si je pleure le départ de l'autre, je ne dois pas retrouver une relation parce que du coup, ça veut dire que je ne pleurais pas vraiment l'autre. Et si je retrouve quelqu'un rapidement, c'est que je n'aimais pas l'autre. Comme s'il fallait que je prouve mon amour par une souffrance longue, longue et longue. Non, évidemment, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Et il y a des rencontres merveilleuses et des rencontres, effectivement, qui viennent surprendre l'idée que l'on se faisait des impossibles à venir. Donc, évidemment, qu'on peut rencontrer quelqu'un très tôt et repartir dans une relation et se sentir beau, belle, dans cette nouvelle perspective pour aboutir à une relation qui sera nourrie de ce que l'on a appris, et c'est ça qui est important, de ce que l'on a appris de la relation précédente et de sa chute. Donc le but, c'est pas d'aller d'une relation génération à une autre sans en avoir appris grand-chose. Sinon, on répète et on répète à l'infini. Et finalement, c'est toujours avec la même personne que l'on sort ou avec laquelle on est en couple, puisqu'on ne fait qu'une répétition d'histoire.
Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. Donc, à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, dans notre grand dossier du jour, on parlera des dangers du soleil sur notre peau. On vous donnera plein de conseils pour bien la protéger, bien sûr, durant l'été. Tout de suite, place à Mathieu Noël et à son équipée sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, je suis sûr que vous portez fort bien le tutu.
Ouf, oui, quand j'avais 2 ans. Je l'ai encore d'ailleurs.
Il y a 6 ans seulement. Ma chère Mélanie Gomez, aujourd'hui, dans l'équipée sauvage, je vous l'annonce d'ores et déjà, une édition exceptionnelle avec la danseuse étoile Dorothée Gilbert, qui publie un livre dans lequel elle raconte son parcours impressionnant, puisqu'elle avait parfois des mauvaises notes à l'école de l'Opéra de Paris.
Bon, bah écoutez, le parcours que je n'ai jamais eu, mais j'écouterai avec attention. Merci beaucoup Mathieu, ça sera un super programme en tout cas. Et vous aussi, surtout, restez sur Europe 1.